France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, comment bien choisir ces produits laitiers frais? Yaourt au lait de vache, de brebis, de chèvre, fromage blanc, petit suisse, skyr, très à la mode en ce moment. Nous verrons s'ils sont vraiment nos amis pour la vie, avec la complicité du mensuel Que Choisir. En compagnie du professeur Boris Ancel, nous reviendrons sur quelques idées reçues sur les produits laitiers. Le lait de vache favorise-t-il l'inflammation ou le cancer? Le lait de chèvre est-il vraiment plus digeste que celui de vache? Nous évoquerons l'histoire des produits laitiers avec le professeur François Quélier, et puis Laurent Mariotte partagera quelques recettes gourmandes. Nos invités attendent vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Alors pour faire l'intérieur du gâteau au fromage blanc, il y a bien sûr les raisins de Smyrne qui sont trempés dans le rhum. Il y a 300 g de fromage blanc. Moi, j'ai pris du fromage frais de chèvre. Il faut 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de farine, 120 g de sucre en poudre, c'est-à-dire 5 cuillères à soupe, 1 cuillère à café de levure chimique et puis ensuite 1 cuillère à café de cannelle. Ces 300 g de fromage blanc égoutté, je tiens à vous le dire, il est égoutté ce fromage, c'est du chèvre pour moi, mais on peut le faire avec n'importe quel fromage blanc. J'y ajoute dans ce saladier sur le fromage blanc 2 belles cuillères à soupe de crème fraîche et puis avec un fouet, je mélange pour obtenir une pâte bien lisse. C'est très très vite, hein, voyez ?
Le dessert au fromage blanc du chef Michel Oliver dans Dis-moi ce que tu mijotes en avril 1978 sur TF1. Et nous partagerons d'autres recettes à base de yaourt ou de fromage blanc avec l'un de nos invités, Laurent Mariotte. Bonjour Elsa Abdoun.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Que Choisir et vous proposez un dossier consacré aux produits laitiers nature frais comme le yaourt, le fromage blanc, la faisselle ou encore le skyr. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris, vous vous occupez de la chaîne PUMS pour une meilleure santé, indispensable en ces temps de fake news en matière de santé. C'est une chaîne PUMS, une chaîne universitaire.
Absolument, une chaîne qui est associée à l'université Paris Cité et la PHP.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Ali.
Vous avez créé le magazine Petits Plats, les petits plats de Laurent Mariotte, avec à la une chaud et fondant. Hein, il y a du produit laitier,
oui,
à la une.
Il y en a plein. Oui, il y a même du Cérac qui est un fromage frais qu'on fait en Savoie, absolument.
Les petits plats de Laurent Mariotte qui marchent fort en kiosque. On vous retrouve également sur TF1 avec vos petits plats en équilibre. Dernier livre paru chez Solar, à ma table. Bonjour Florent Quélier. Désolé, je vous appelais François tout à l'heure. On vous connaît dans cette émission. Vous êtes professeur en histoire moderne à l'université d'Angers. On vous doit un ouvrage de référence. C'est l'histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours. C'est une mine d'informations. Et on commence avec vous, Florent Quélier. L'histoire des produits laitiers débute au Proche-Orient. On ne sait pas où exactement quand les premiers éleveurs proche-orientaux ont commencé à exploiter leurs troupeaux de ruminants pour le lait, pour exploiter le lait.
Ce qu'on est sûr, c'est que les produits laitiers sont consommés au néolithique. Mmh. Au néolithique avec les premières sociétés agro-pastorales, où là, il y a effectivement production de produits laitiers pour répondre à un problème technique qui est la conservation du lait. Comment on peut conserver le lait? Et les réponses qui vont être trouvées, ce sera le lait fermenté, ce sera le beurre, ce sera le fromage. Et ce qui est certain, si on se décale du côté occidental, européen, donc en partant du croissant fertile, c'est que dès 7000 ans avant notre ère, il y a consommation de produits laitiers. Et les préhistoriens le savent, notamment en prenant en compte l'âge d'abattage des animaux, en prenant également en compte les restes de mobilier céramique sur lesquels on retrouve des résidus de produits laitiers. Et on a retrouvé, notamment en Pologne, des morceaux de céramique perforés sur lesquels il y a des résidus laitiers, et donc il s'agit de faisselle.
C'est dès la fin du 6e millénaire avant notre ère, à peu près.
Exactement. Et là, on est sûr qu'il y a fabrication de fromage. Alors, techniquement, on est...
C'est-à-dire que les premiers fromages, ce sont des fromages frais.
Obligatoirement, oui. On est sur des fromages frais, mais on n'est pas capable de savoir aujourd'hui quels étaient les laits utilisés. Donc pour l'Europe, ça se joue entre les vaches, les brebis et les chèvres. On n'est pas capable non plus de connaître les présures utilisées, hein, si on est du côté animal ou végétal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette production. Et dans l'art rupestre, on a également des représentations de personnages qui sont en train de traire des vaches. Ça, on en a du côté du Sahara pour le 5e millénaire avant notre ère.
Et de quand datent les premiers yaourts, les premiers laits fermentés? Ça date de la même époque que les premières faisselles?
Alors très probablement, alors là c'est un peu compliqué d'arriver à déterminer réellement ce qui est produit dans les céramiques non perforées, hein, de savoir réellement ce qu'on pouvait y produire, mais on pense qu'on est autour de lait fermenté et de yaourts. Et à partir des périodes historiques, c'est-à-dire dès la Mésopotamie, hein, dès le 4e millénaire avant notre ère, là, sur les tablettes mésopotamiennes, on a des indications de produits laitiers, et donc on sait que là, il y a production de fromage frais, de lait fermenté. On a même du lait qui est déshydraté, hein, du lait fermenté déshydraté, hein, et donc un lait en poudre, bien avant ce que l'on va produire au 19e, 20e. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait déjà dans les sociétés antique et notamment bien adapté à au climat de ces zones.
Comment se sont diffusés ces produits laitiers frais, ces premières faisselles, ces premiers yaourts, ces premiers laits fermentés du Proche-Orient au Néolithique jusqu'en Europe, jusqu'en France, jusqu'en Gaule à l'époque comment ça s'est diffusé?
Alors tout simplement en suivant des groupes humains qui sont partis du croissant fertile. C'est là où est inventé l'agriculture, les premiers paysans viennent de là, et ils se sont déplacés avec les animaux, puisque c'est lié également à la domestication du bétail, c'est également lié à la domestication de plantes, et également, ces groupes se sont déplacés avec leur technique, également sur la manière de fabriquer des céramiques.
Elsa Abdoun, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de produits laitiers ultra frais qui inondent nos rayons dans les supermarchés, dans les hypermarchés? D'ailleurs, le choix est assez immense en la matière.
Oui. Alors, ça va être ceux qui ont une durée de vie courte, tous les produits laitiers qu'on va trouver au rayon frais. Mais avec une durée de vie courte, on peut trouver des fromages affinés au rayon frais, on ne va pas les compter dans l'ultra frais. On va aussi sortir, sur le plan nutritionnel, tout ce qui est crème fraîche, beurre, qui correspondent à cette définition, on les sort aussi de l'ultra frais, puisque ce sont des produits qui apportent très peu de calcium et beaucoup de gras. Donc on va être sur, effectivement, yaourt, fromage blanc, faisselle et lait fermenté.
Alors les fromages blancs qui sont composés de lait qui a été caillé par des bactéries liquides, ou par des enzymes appelées parfois présures, et puis ils sont égouttés. Il y a les faisselles aussi, qui sont des fromages blancs dont l'égouttage est réalisé lentement dans des moules perforés. Les fromages frais, cette appellation désigne des fromages blancs contenant un minimum de bactéries lactiques vivantes au moment de la vente. Ils ne peuvent pas être pasteurisés. Et puis il y a les petits suisses, ces fromages blancs obtenus à partir de lait de vache et enrichis de crème et entourés d'un papier plus ou moins toxique. On verra ça tout à l'heure avec Boris Ancel. Et puis il y a les yaourts aussi, les yaourts évidemment.
Oui, effectivement, il y a tout un tas de recettes différentes. À chaque fois, on est sur du lait qui a fermenté. C'est le principe de base, mais selon qu'on égoutte ou pas, selon le type de bactéries qu'on va utiliser, on obtient, selon qu'on rajoute de la crème, on va obtenir différents produits avec différentes saveurs et aussi différents intérêts nutritionnels.
Et on reviendra tout à l'heure sur le cas particulier du skyr, qui est très très à la mode. Rappelez ce que c'est le skyr, peut-être, avant d'en parler plus longuement tout à l'heure.
Alors, le skyr, c'est tout simplement...
S-K-Y-R.
Oui, il a un nom exotique, il est vendu très cher.
Très très cher.
Parce que, avec un marketing très très anglais sur les protéines, le skyr finalement, c'est un yaourt 0%, donc à partir de lait écrémé, qui a été égoutté. Voilà.
ultra protéinés. Et on verra quel est l'intérêt nutritionnel tout à l'heure d'en consommer. Tiens, Laurent Mariotte, sur la place de ces produits laitiers ultra frais dans notre gastronomie, est-ce que, par rapport, je pense à la Grèce, est-ce que nous, dans notre gastronomie française, on utilise beaucoup le yaourt, le fromage blanc, les faisselles dans nos recettes salées et sucrées? Est-ce que c'est très présent ou pas?
Beaucoup le fromage blanc pour alléger les sauces, par exemple. Vous voulez faire une salade piémontaise qui est une salade à base de pommes de terre, de cornichons, de jambon et d'emmental. On fait en général une bonne mayonnaise à l'huile. Vous voulez l'alléger parce que le printemps arrive. Vous remplacez tout simplement l'huile par un fromage blanc et même 0% si vous le souhaitez. Et ça allège, effectivement. Vous parliez de la crème, vous parliez de la faisselle. Moi, j'adore les faisselles. Il y a quand même une invention française qui est magnifique, c'est le Fontainebleau.
Racontez-nous le Fontainebleau.
Le Fontainebleau, c'est génial. C'est au départ une crème qui était agitée comme ça dans des bidons de lait et qui s'est mise à foisonner et à mousser. Donc on a une sorte de chantilly. Et la maison Barthélémy qui fait ça à Fontainebleau en Seine-et-Marne l'enrichit, ce Fontainebleau de crème fraîche et de faisselle. Et c'est absolument magnifique. C'est vendu dans des petites mousselines de gaz comme ça. Ça fait vraiment partie des choses qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Le Fontainebleau chez un fromager. Ouais.
Bonjour Rémi Houdguiry.
Bonjour.
Directeur adjoint du cabinet Sociovision, une filiale de l'IFOP. Je rappelle que vous êtes également sociologue. Au menu de votre chronique, les Français, mode d'emploi.
Eh bien, on va parler des steaks végétaux, des saucisses végétales qui se cachent derrière les consommateurs de ces produits.
Je ne suis pas sûr, Laurent Mariotte, que vous soyez un grand fan des steaks végétaux.
Faut me convaincre, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Florent Quélier ?
Non plus.
Bon, on va quand même écouter également votre chronique avec beaucoup d'attention. Boris Ancel, tiens, vous nous direz si ça vaut le coup, d'un point de vue nutritionnel.
Moi, je ne mange pas ça.
Bon, on est en train de vous casser votre chronique, mon cher.
Sociologue.
Mais il va nous retourner, peut-être.
Peut-être.
C'est l'appellation steak qui pose problème et qui fait débat souvent.
Exactement.
Grand bien vous fasse.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés?
Sur France Inter.
Et ce matin, comment choisir ces produits laitiers frais? C'est notre thème ce matin, qu'il s'agisse de fromage blanc, de faisselle, de fromage frais, de petits suisses de yaourt, mais également de skyr, très à la mode en ce moment.
Dans ce supermarché, on le trouve décliné sous toutes les formes et pour tous les goûts.
En 2017, quand les skyrs sont arrivés, ça représentait une planche de ce frigo. Et aujourd'hui, on est sur deux portes quasiment pleines ici. Et on a également par ici encore quasiment une porte sur du skyr végétal, bio.
En 5 ans, dans cette grande surface, le chiffre d'affaires lié aux ventes de skyr a été multiplié par 10.
C'est vraiment la locomotive aujourd'hui qui tire les ventes de l'univers des yaourts.
Extrait d'un reportage d'M6 Info en juin 2024. Alors le skyr, je le rappelle, c'est une appellation qui n'est pas encore encadrée. C'est une spécialité qui désigne en général un yaourt à base de lait crémé et qui a été égoutté, très très protéiné. Professeur Boris Ancel, quel est l'intérêt nutritionnel de consommer du skyr ou tous ces yaourts ultra protéinés?
La question, quand on consomme des produits laitiers, c'est pourquoi on les consomme. Il y a deux intérêts principaux, le calcium et l'apport en protéines.
On y reviendra sur le calcium tout à l'heure. Mais sur cet apport de protéines assez massif, il y a 10 à 12 grammes de protéines pour 100 grammes de produits.
Ce qui est vrai, c'est que le skyr, c'est aujourd'hui le produit laitier, facile à acquérir, même s'il est un peu plus cher que les autres, qui est le plus riche en protéines. Cela dit, on a d'autres produits laitiers qui sont également assez riches en protéines, qui coûtent un petit peu moins cher et qui sont probablement tout aussi intéressants, en particulier le fromage blanc.
Et le petit suisse.
Et le petit suisse. Alors le petit suisse, il y a une question qui n'est pas résolue, c'est vous savez, l'emballage, le petit ruban qu'il y a autour. Certains nous disent qu'il y a potentiellement des produits toxiques. Disons que moins il y a d'emballage, mieux c'est. Donc, moi, je ne dis pas que les petits suisses sont dangereux. Maintenant, si on peut éviter d'avoir un produit avec un ruban autour, c'est toujours a priori mieux, sans interdire le petit suisse.
Non, donc, mais d'un point de vue économique, le skyr qui est nettement plus cher que le petit suisse.
Ah voilà, donc c'est plus cher, c'est sûr que ça n'en vaut pas forcément la peine. Je pense que c'est vrai que l'intérêt des protéines dans les produits laitiers, il ne faut pas le négliger. On dit que la population consomme suffisamment de protéines, Mais quand on regarde de près, c'est pas simple d'avoir aujourd'hui les apports optimaux en protéines si on applique toutes les recommandations. Quand vous voulez limiter la viande, quand vous voulez consommer du poisson dans la quantité recommandée, c'est-à-dire 2 portions par semaine. Quand vous voulez consommer les œufs dans des consommations raisonnables, et aujourd'hui il y a beaucoup de fausses informations sur les œufs, il faut arrêter de raconter qu'on peut manger 2 œufs par jour sans aucun problème, ça c'est juste faux. En tout cas, c'est pas une recommandation raisonnable de dire manger 2 œufs par jour. Donc si on veut appliquer toutes les recommandations, c'est vrai qu'il y a aussi des protéines dans les légumineuses qui sont très intéressantes, mais c'est un peu compliqué d'avoir l'apport optimal sans produits laitiers. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est vrai qu'avoir des produits laitiers protéinés, c'est quand même une grande aide pour beaucoup d'entre nous, pour avoir une alimentation équilibrée.
Est-ce que ça peut être utile, par exemple, quand on est très sportif, qu'on fait de la musculation, par exemple, ou du fitness, ou alors quand on vieillit et qu'on est atteint de sarcopénie, c'est une perte musculaire naturelle. Est-ce que dans ces cas-là, consommer du skyr, ou quand on est en pleine croissance, quand on est adolescent, est-ce que c'est utile ?
À tous les âges de la vie, il faut avoir des apports en protéines suffisants et de bonne qualité. Et vous avez tout à fait raison, il y a des situations où l'apport en protéines doit être encore accru, en particulier chez les personnes âgées à risque de sarcopénie. Les sportifs, mais là, c'est encore un autre enjeu, et honnêtement, quand vous voulez vraiment faire du muscle et vous voulez apporter 1,40 g, 2 g kilo jour de protéines, là, vous n'avez pas trop le choix que d'avoir des produits très protéinés, voire des milkshakes protéinés. Donc, je pense que le skyr, mais pas que, les fromages blancs et les petits suisses sont intéressants pour leur apport en protéines de très bonne qualité, mais c'est vrai que c'est un petit peu survendu de mettre le skyr comme le produit qui va vous permettre de vous muscler et de faire le plein de protéines.
Votre regard, Laurent Mariotte, sur ce succès du skyr, d'abord une question toute simple, du point de vue gustatif, ça vous plaît ? Moi, à titre personnel, je trouve ça aigre et pâteux. Mais...
Alors moi, j'aime bien le côté acidulé et grelé, justement. Ouais. Là où ils sont forts, c'est qu'on le disait, il y a du marketing, évidemment, autour des produits laitiers et bien entendu autour du skyr. Il y en a de très bons avec du stracciatella, qui sont ces petits morceaux de chocolat qu'on met à l'intérieur. C'est vrai que ça peut faire
un
dessert.
C'est les petits morceaux de chocolat qui aussi rendent goûteux votre skyr.
Oui, mais parce que ce chocolat vient bien équilibrer avec le côté aigrelé, comme vous dites, du skyr. On n'est pas sur quelque chose de trop gras et trop sucré, effectivement.
Comment utiliser le skyr, en cuisine ? Comment vous l'utiliseriez, vous ?
En cuisine, je n'ai jamais utilisé, pour tout vous dire. C'est vrai que c'est pour moi plutôt quelque chose qu'on consomme comme un dessert, mais on peut l'utiliser, effectivement, dans ce cas-là, parce qu'il est assez compact et épais, détendu, avec une crème liquide allégé si on veut se donner bonne conscience, pour faire une sauce, pour enrober ce que je vous disais même tout à l'heure, la piémontaise qu'on peut faire avec des pommes de terre normales en attendant les pommes de terre nouvelles. On peut faire une sauce à base de skyr mélangé avec de la crème, ou même une huile d'olive. Il faut prendre un liquide comme ça, un petit peu gras aussi, pour le détendre dans ce cas-là.
Ça peut servir d'enduit aussi sur le mur peut-être.
Ça c'est autre chose.
Votre regard, Florent Kelly, en tant qu'historien, par rapport à ces modes comme le skyr, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers, et auteur d'histoire de l'alimentation.
Alors, d'un point de vue historique, et si on prend la question de la cuisine française, l'utilisation de skyr ou de yaourt, c'est quand même très récent. C'est quelque chose qui va apparaître vraiment dans la seconde moitié du XXe siècle. Avant, on est sur une cuisine qui est beaucoup plus grasse, beaucoup plus onctueuse, où la base des sauces, c'est quand même avant tout le beurre. C'est-à-dire que, d'un point de vue historique, les produits laitiers ont essentiellement été consommés sous forme de beurre et de fromage. Le yaourt, c'est quand même très très marginal, et ça n'apparaît réellement que très récemment dans cette histoire. La grande cuisine, la cuisine française telle qu'elle apparaît au XVIIe siècle, c'est une cuisine du beurre, c'est une quasi-signature. Quand on parle de recettes à la française au XVIIe, quand on est hors de France, obligatoirement il y a du beurre, et c'est un élément qui va durer jusqu'aux années 70, en fait, jusqu'à la nouvelle cuisine de Gomillot, la cuisine
de Michel Guérard.
On y revient maintenant, découvrant justement ces classiques de la cuisine française avec ces fameuses sauces montées au beurre qui consistent à mettre des petits carrés de beurre frais à la fin de la sauce pour la monter et avoir une onctuosité et puis du goût, parce que le gras, il faut le dire, en cuisine, c'est un vecteur de goût, ça capte les saveurs, donc ça les restitue aussi.
Mmh. Et on le retrouve dans la cuisine de poisson, par exemple, le fameux beurre blanc, hein, le beurre blanc bien qui sûr. Est un classique de la cuisine française voilà. Et qu'on pratique encore aujourd'hui.
Elsa Abdoun, de Que Choisir, les rayons des supermarchés débordent de produits ultra frais, et vous vous êtes demandé si les produits laitiers ultra frais étaient vraiment nos amis pour la vie, pour reprendre ce fameux slogan publicitaire.
Oui, on a acheté 30 produits différents, justement, tout type, et aussi tout lait, c'est-à-dire faisselle, skyr, mais aussi lait de brebis, lait de vache, lait de chèvre. Et on a regardé, nous, on s'est surtout...
Avec des analyses en laboratoire.
Voilà, on les a analysées en laboratoire pour vérifier que ce qui est indiqué sur les étiquettes était vrai, mais aussi pour savoir certaines choses qui ne sont pas indiquées et qui sont en fait, finalement, peut-être les plus intéressantes quand même pour les produits laitiers. Le calcium. On voit très peu de produits laitiers qui, voilà, contrairement aux protéines, nous disent en face avant, riche en calcium. On ne sait pas grand-chose. Et donc, on les a comparés sur ce critère. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans nos analyses, dans les résultats qu'on a obtenus, c'est justement l'idée que l'égouttage qui est réalisé et qui permet à certains produits d'être riches en protéines, un peu plus riches en protéines, hein, c'est pas non plus des différences majeures, c'est-à-dire les fromages blancs, les skyrs, les petits suisses. Finalement, cet égouttage, on perd le petit lait et on perd du calcium. Et c'est assez considérable, finalement, le yaourt classique, c'est ce qu'on a de plus riche en calcium. Donc voilà, quand on enrichit en protéines... D'un autre côté, on perd du calcium et c'est quand même quelque chose dont on a particulièrement besoin et pour lequel les produits laitiers sont une source majeure. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir les différences entre produits à base de lait de brebis qui deviennent un peu à la mode et produits à base de lait de vache ou de chèvre. En fait, le lait de vache et le lait de chèvre sont très proches nutritionnellement, alors que la brebis a un lait vraiment très très riche, mais très riche en tout. Très riche en protéines, très riche en gras, très riche en calcium. Et donc, ça peut donner des produits assez intéressants sur le plan, en évitant peut-être le lait entier de brebis, parce que là, on atteint vraiment des taux de matière grasse très importants. Mais avec un lait partiellement écrémé ou écrémé, on a vraiment des taux de protéines et de calcium qui sont très intéressants.
C'est-à-dire que quand j'achète un yaourt grec au lait de brebis, il est nettement plus, et j'en abuse peut-être un petit peu, il est nettement plus riche en gras, et en gras saturé notamment, qu'un yaourt traditionnel au lait entier.
Alors, le yaourt à la grecque, c'est encore particulier. Hein. Souvent, on a un ajout de crème par-dessus. Donc, on est sur des produits.
On a l'impression que c'est un produit santé, le yaourt à la grecque.
Oui, absolument.
Ah, bah oui, d'autant que grec, ça fait référence au régime crétois. Voilà. Et beaucoup de mes patients se disent : Ah, c'est le meilleur yaourt parce qu'on m'a dit de manger diète méditerranéenne et la Grèce, ça fait partie du bassin méditerranéen.
Donc, Elsa Abdoun, attention avec le yaourt à la grecque au lait de brebis, très très riche en gras.
Et j'ajouterais alors, le yaourt à la grecque tout court, hein, y compris de vache, à partir du moment où on ajoute de la crème, on peut en ajouter. Mais je dirais même les fromages blancs, en fait. Les fromages blancs, certains, en fait, il y en a des très maigres, il y en a des, dans la moyenne. Et puis, on peut aussi avoir des fromages blancs qui sont enrichis en crème. Donc, c'est quand même intéressant de regarder les étiquettes, parce qu'on peut arriver à des produits très riches. Et la dernière chose, c'est les petits suisses. Ça, peu de gens le savent, mais en fait, le petit suisse est un produit très gras. Donc, la différence majeure entre le petit suisse et le skyr, ils ont à peu près les mêmes taux de protéines. Bon, après, il y a l'emballage du petit suisse qui est quand même embêtant, c'est ces minuscules petits pots en plastique. Mais c'est que le petit suisse, en plus, a 10% de crème. C'est vraiment énorme, c'est à peu près comme un yaourt à la grecque.
Laurent Mariotte.
C'est intéressant parce que j'ai lu votre enquête. Alors, moi, il y a une idée qui est une fausse idée reçue sur les fromages de chèvre, sur les laits de chèvre et les yaourts de chèvre, par exemple, on a tendance à les trouver plus digestes. Et pareil pour la brebis, et vous dites que ce n'est pas forcément le cas.
En tout cas, nous, on a interrogé des spécialistes de la question, on a fouillé la littérature scientifique, et ce qui nous a été dit, et effectivement, on n'a rien trouvé comme étude, et les spécialistes qu'on a interrogés nous ont dit, nous, on n'a pas connaissance d'études qui démontrent une différence de digestion.
On a un spécialiste, là, professeur.
Oui, alors, c'est vrai que chez l'humain, on n'a pas d'études cliniques qui permettent de confirmer, au-delà de l'idée qu'on se fait que le lait de brebis, le lait de chèvre va être plus digeste, que c'est vraiment le cas. On a quelques études in vitro qui montrent que le caillé de lait de chèvre et de lait de brebis est plus digestible. Bon, in vitro, hein. C'est-à-dire que c'est pas dans le corps humain. Hein. Et que la matière grasse, avec notamment pas mal d'acides gras un peu particuliers dans ces laits, est également plus facile à digérer. Donc ça, c'est des hypothèses pour dire que peut-être c'est plus digeste. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. La preuve clinique, on ne l'a pas. Et vraiment, je crois qu'il faut laisser les gens nous dire ce qu'ils ressentent. S'ils se sentent mieux, et ça c'est vrai toujours en nutrition, avec tel aliment plutôt que tel aliment, bon, il faut les laisser.
Laurent Mariotte.
Faisselle de chèvre, voilà, la faisselle de chèvre, c'est vrai que moi j'adore ça, quand on a la chance d'en trouver à côté de chez soi. C'est peut-être l'occasion de dire aussi, cette émission, Ali, qu'il faut se reconnecter avec nos paysans à côté de chez nous qui vendent à la ferme, parce que tous ces produits dont on parle, on les trouve en circuit court, en vente directe à la ferme. Et c'est une occasion aussi de se reconnecter avec nos paysans. Il y a le salon d'agriculture qui ouvre ce samedi. Ça, c'est vraiment une bonne façon aussi de consommer frais, du lait cru aussi, donc des produits qui ont du goût, faut pas oublier.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec une faisselle?
Faisselle de chèvre.
Ouais, une recette salée, une sauce. Comment on peut utiliser cette faisselle?
Alors moi, j'aime bien une faisselle de chèvre, par exemple. Je vais la mélanger avec une crème d'olive noire qu'on peut trouver dans le commerce, ou alors on mixe des olives vertes ou noires qu'on a à la maison. Des vraies noires, hein, pas des teintées avec l'oxyde de fer, hein, des bonnes olives. Et puis on met une huile d'olive aussi pour avoir une belle onctuosité. On met ça dans le tapis d'une assiette. On peut mettre des pommes de terre par-dessus, ou alors on va bientôt rentrer là dans la saison des asperges. Les premières asperges vertes que vous faites griller juste à la poêle grille avec un petit peu d'huile d'olive, ou alors au four tout simplement, et vous mettez ces asperges grillées sur cette sauce à base de faisselle de chèvre, avec ce petit côté aigrelé justement qui va venir titiller le fruité et l'amertume
dans ce cas-là, oui, je prends.
Ah voilà, vous voyez que vous prenez, et des olives, là on a une belle combinaison qui nous emmène gentiment vers le printemps.
Tiens, une recette toute simple à faire avec un yaourt à la grecque, le labneh, c'est ce fromage frais d'origine libanaise qu'on retrouve aussi en Grèce. Donnez-nous cette recette du labneh qui est absolument délicieuse et très facile à faire.
Ah bah, il n'y a rien à faire, il faut juste les goûter tout simplement.
Dans une mousseline.
Dans une mousseline.
Dans une gaze.
Voilà, exactement. On parlait de ça tout à l'heure pour le Fontainebleau. On peut prendre même les compresses de gaz qu'on a à la maison dans sa pharmacie, et on met ce yaourt-là qu'on va mettre dans le réfrigérateur au moins 24 heures pour qu'il soit bien égoutté. Et ça, pareil, moi j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Allez, on va encore attendre 3 mois et on va rentrer dans la saison du melon. Vous faites ça en été avec un melon. Vous allez juste pareil, rôtir avec un petit peu d'huile d'olive et ce labneh égoutté, c'est une très belle combinaison, ça.
Oui, après vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive, c'est vrai que c'est absolument délicieux et très facile à faire, le labneh. Alors j'aimerais qu'on évoque quelques idées, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, que vous évoquez dans le Que Choisir, Elsa Abdoun. Les produits laitiers favoriseraient le cancer?
Oui, ça c'est...
C'est une idée qui circule pas mal. Hein.
Oui, oui, oui. Donc là-dessus, on a aussi enquêté.
La réponse, alors, il faut le dire tout de suite.
Ce qu'on voit...
C'est faux.
En tout cas, il y a quelques études qui suggèrent qu'une consommation excessive de produits laitiers peut favoriser, je crois même d'ailleurs c'est spécifiquement sur le lait, une consommation excessive pourrait peut-être favoriser le cancer de la prostate.
De la prostate.
Par ailleurs, il y a des démonstrations apparemment beaucoup plus claires de prévention d'autres types de cancers, notamment le cancer colorectal et, de souvenir, le cancer du sein, où on voit que l'effet, là, des produits laitiers est bénéfique.
Une consommation modérée de ces produits laitiers réduirait donc le risque de cancer colorectal et une baisse du risque du cancer du sein. Professeur Boris Ancel, sur l'idée d'abord que de consommer de façon excessive des produits laitiers favoriserait la survenue du cancer de la prostate.
Quand on parle de la relation entre la nutrition et les cancers, c'est très important toujours de préciser quel est le niveau de preuve. Parce que tous les jours, on lit des phrases qui sont mal formulées. Par exemple, quand on dit le risque possible, probable, on est convaincu, avéré, chaque mot a son sens. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le lien entre produits laitiers et cancer? Grosso modo, trois choses. Un, il n'y a pas d'augmentation majeure, comme on pourrait imaginer avec le tabac, avec l'alcool. Avec le tabac, avec l'alcool, c'est avéré, on augmente son risque de plein de cancers. Ce n'est pas le cas avec les produits laitiers. Deuxièmement, on a un niveau de preuve convaincant. Ça ne veut pas dire que c'est avéré, mais c'est convaincant, selon les autorités internationales, d'un bénéfice apporté par une consommation de produits laitiers sur le risque du cancer colorectal. On a fait une simulation en 2015 en disant qu'en France, on aurait 850 cas de cancer du côlon et du rectum qui sont attribuables à une faible consommation de produits laitiers. Pour donner un autre exemple, dans le sens inverse, on estime que 6000 cas de cancer colorectaux sont liés à la consommation de viande rouge et charcuterie. Voilà, donc on a des éléments assez convaincants pour dire que ça nous protège du cancer du côlon et du rectum. Deuxièmement, pour la prostate, on a des données qui suggèrent qu'au-delà de 2, peut-être 3 portions de produits laitiers par jour, on augmente un peu le risque de cancer de la prostate. Voilà pourquoi aujourd'hui, les recommandations en France, c'est de consommer 2 produits laitiers par jour. Si on en consomme 3, on n'augmente pas son risque de manière majeure, mais ça explique pourquoi on a une valeur de 2 produits laitiers par jour. Pour le cancer du sein, les données sont beaucoup plus discutables, avec des données qui sont en faveur d'une augmentation du risque, d'autres une réduction du risque. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer là-dessus.
Et je rappelle, professeur Maurice Ancel, que vous n'avez aucun lien d'intérêt avec l'industrie agroalimentaire. Il faut le préciser.
Je le dis moi-même, voilà. Pour que ce soit clair. Je n'ai pas vous, c'est pas à vous de le dire, c'est à moi de le dire. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ni agroalimentaire depuis au moins 10 ans. Jamais de contact.
Elsa Abdoun.
Oui, non, je voulais juste ajouter que pour les enfants et les adolescents, c'est quand même un conseil pratique utile. Et les femmes enceintes, c'est contrairement aux adultes, c'est même 3 produits laitiers par jour parce que les besoins en calcium sont augmentés. Donc.
Tiens, vous posez la question. Ah, pardon, Laurent Mariotte, vous vouliez intervenir.
Non, mais c'est très intéressant parce que moi, ce qui m'hallucine, c'est que on a entendu le contraire de ça pendant des années, quoi. Moi, j'ai même entendu que les yaourts, le lait de vache pour les femmes, c'était un risque de développer un cancer du sein. Donc, on a entendu des tas de choses comme ça qui sont. D'où ça vient? C'est ça qui est très perturbant, je trouve.
C'est très intéressant ce que dit Laurent Mariotte sur cette cacophonie nutritionnelle. Boris Ancel, vous qui êtes aux premières loges, puisque vous êtes professeur en nutrition, on entend tout et son contraire. Oui. On peut se dire, tiens, dans 5 ans, ce que nous dit Boris Ancel, ça sera invalidé par la science.
La difficulté en nutrition, c'est que tout le monde mange, et donc très rapidement, on se sent expert en nutrition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément de lobbies dans tous les sens. Oui, il y a des lobbies de produits laitiers, mais il y a aussi des lobbies inverses. Il y a beaucoup de, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Miviludes, les missions interministérielles pour la lutte contre les sectes, qui dit il y a beaucoup de sectes qui s'approprient ces sujets de nutrition, et notamment celui des produits laitiers. Et le troisième point que je dis toujours, mais je vais le redire encore aujourd'hui, allez, si vous me permettez, c'est que en médecine en général et en nutrition en particulier, il faut distinguer ce que dit une étude scientifique et ce qu'on peut en tirer pour la population. Et malheureusement aujourd'hui, il y a, y compris de la part des experts, et ça je le déplore, un raccourci trop rapide qui est fait. C'est-à-dire que vous allez avoir une étude qui donne une information qui est dans la majorité des cas une hypothèse, et tout de suite vous allez avoir, y compris de la part de certains experts, un message, une punchline qui va être reprise par la presse et qui diffuse auprès de la population comme une donnée. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez avoir une information, demain une autre, et qu'on vous dit que vous allez avoir l'impression que la science se trompe. C'est pas que la science se trompe, c'est juste ce qu'on a fait dire à la science qui est erroné. Donc s'il vous plaît, quand on parle de nutrition, faisons la différence entre ce que dit l'étude et la communication qui en est faite n'est pas la même chose.
Elsa Abdoun, dans Que choisir, vous demandez si le lait de vache favorise l'inflammation.
Oui, ça
Est-ce
fait
que
partie
des influenceurs en nutrition, entre guillemets, des naturopathes, certains médecins affirment que le lait de vache favoriserait l'inflammation. Oui. Et les maladies qui y sont associées, comme les maladies cardiovasculaires ou les douleurs articulaires.
Oui, ou le cancer. L'inflammation est liée effectivement à un très grand nombre de maladies chroniques. Ça fait partie des a priori qui circulent. Nous, à nouveau, on a creusé, on a demandé, on a regardé toute la littérature scientifique autant qu'on le pouvait. On a interrogé tous les scientifiques un peu spécialistes du sujet qui ont bien voulu nous répondre. On n'a rien trouvé sur ce plan-là qui le suggère.
Professeur Ancel.
Oui, alors c'est vrai, je ne sais même pas d'où ça sort en fait, cette idée reçue, parce que non seulement ça ne provoque pas d'inflammation, mais on a même
ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Hein.
Absolument, l'inflammation de bas grade, c'est pas le fait d'être tout rouge et de voir ses articulations gonfler de manière incroyable. C'est cette petite inflammation qu'on peut voir en faisant des dosages, de la CRP par exemple, ultra sensible, des dosages qu'on fait
quand on fait une analyse sanguine,
une analyse de sang. Et non seulement il n'y a pas d'augmentation, mais il y a plutôt l'ensemble des données en faveur d'une réduction de l'inflammation, y compris chez des personnes qui ont une petite inflammation de bas grade. Alors, il y a des gens qui vous disent que quand ils arrêtent les produits laitiers, ils ont moins mal aux articulations. C'est absolument pas démontré par la science, mais encore une fois, moi, vous savez, je suis très 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 ouvert. Un patient qui vient me voir en me disant « je suis pas bien et depuis que j'ai arrêté les produits laitiers, je vais mieux », il n'y a pas d'obligation, Ali, à manger des produits laitiers pour rester en bonne santé. Ça, il faut quand même le dire. Il n'y a pas d'obligation. On peut vivre en bonne santé sans produits laitiers. Donc, si un patient se sent mieux sans produits laitiers, il peut le faire. Mais inversement, il n'y a pas lieu de dire « vous devez arrêter les produits laitiers ». Les produits laitiers, c'est uniquement pour les enfants et pour les ados. Voilà, donc ça c'est important de le préciser.
Allez, il est déjà l'heure de retrouver les Français mode d'emploi de Rémi Houdguiri de Sociovision.
Regardez seulement, regardez.
Grand bien vous ouais. Fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Rémi Houdguiri, directeur adjoint du cabinet Sociovision, filiale de l'IFOP.
Alors, fin janvier, le Conseil d'État a tranché le débat. On peut à nouveau utiliser la dénomination steak de soja ou saucisse végétale. Alors derrière cette décision, il y a une tendance, la tendance végé, c'est-à-dire végétarienne ou végane, dont tout montre qu'elle a résisté au choc de l'inflation. Ces produits ont trouvé leur public. Selon une étude que vient de réaliser Sociovision, 28% des Français âgés de plus de 15 ans déclarent consommer des steaks végétaux, des boulettes végétales, des saucisses végétales. Alors bien sûr, ils ne font pas ça tous les jours. Les purs et durs ne sont qu'une toute petite minorité, puisque 4% le font systématiquement. Mais qu'un quart des Français en consomme, ne serait-ce que de temps en temps, est significatif. Est de plus en plus visible. Depuis quelques années, les linéaires des grandes surfaces accueillent de plus en plus de jambon à base de lentilles, de saucisses ou de nuggets à base de blé ou des pâtés aux champignons. Alors cette percée traduit une évolution profonde des comportements que montrent bien les chiffres. 33% des Français essaient de remplacer autant que possible les produits d'origine animale par autre chose. 28% se déclarent flexitariens, c'est-à-dire qu'ils limitent leur consommation de viande sans être exclusivement végétariens. 25% font régulièrement des repas sans viande. Un frein majeur néanmoins persiste, et c'est pas le moindre, le sacro-saint principe de plaisir. Moins d'un Français sur deux dit prendre du plaisir à manger des plats végétariens. Alors, qui sont-ils ces amateurs de steaks végétaux, de boulettes végétales, de merguez végétariennes? Eh bien, ces amateurs sont nettement surreprésentés dans les grandes villes, d'abord. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup de diplômés. Et en fait, la caractéristique la plus importante est générationnelle. C'est-à-dire que plus on avance en âge et plus on est réticent à ce type de substitut. La ligne de démarcation se situant autour de 40-45 ans. 37% des 25-34 consomment des substituts végétaux, seulement 16% des plus de 65 ans. Mais le plus surprenant dans l'étude, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui consomment ces produits.
Et pourquoi est-ce étonnant, Rémi Houdguiri?
Parce que si on regarde attentivement les amateurs de cuisine végétarienne en France aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont toujours devant les hommes, et ce de façon significative. Tous les indicateurs le montrent. 49% des femmes prennent du plaisir à la cuisine végétarienne, seulement 40% des hommes. Une femme sur trois réduit sa consommation de viande, contre seulement un homme sur cinq. Et puis elles sont aussi plus nombreuses à penser que l'offre végétarienne n'est actuellement pas suffisante. Alors le mystère est le suivant. Pourquoi, sur les substituts à la viande, n'observe-t-on pas la même différence? Ali, êtes-vous allé récemment dans un rayon végé?
Oui. J'avoue. Oui.
Moi, personnellement, je l'ai fait ce week-end. Et ce qui m'a frappé, c'est la récurrence de tous les produits avec la mention « riche en protéines ». Et c'est là que j'entrevois une explication, au minimum une corrélation. Alors, je me suis replongé dans les données de l'étude et j'ai étudié les motivations des consommateurs de ces produits. Alors, l'étude, elle montre quoi? Elle montre que ce sont des produits plébiscités par les consommateurs soucieux de leur santé, soucieux de l'environnement et aussi soucieux du bien-être animal. Jusque-là, pas de surprise. Mais il y a un dernier facteur, et c'est celui de la performance. Et en particulier, si on zoome sur les jeunes hommes de 25-34 ans, 51% d'entre eux déclarent choisir ces aliments pour être plus performants, à comparer à seulement 28% des femmes. Il y a 23 points d'écart. Et c'est là où la tendance VG rencontre la tendance muscu.
Ah bah oui.
Puisque la plus 60% des 25-34 ans disent que c'est important de muscler leur corps. On l'observe actuellement dans toutes les salles de sport. Conclusion, les athlètes de la salle s'approvisionnent, entre autres, au rayon végétal, qui l'eût cru.
Steak végétal et skir, hein, pour les amateurs de muscu, ça fait rêver. Je suis pas sûr, Laurent Mariotte, que vous soyez un grand fan des steaks végétaux.
Et de muscu, non. mais ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qu'on met à l'intérieur, parce que c'est l'industrie agroalimentaire qui s'est emparée de tout ça, donc faut bien regarder là aussi les étiquettes, parce qu'on y va des additifs et des conservateurs dans ce genre de produits.
Elsa Abdoun, hein.
On avait travaillé là-dessus aussi. Effectivement, il y a des produits catastrophiques. Après, je trouve ça toujours intéressant de se dire, un jambon végétal, il est ultra transformé. Le jambon carné aussi, pour beaucoup, ceux qu'on trouve dans les rayons des magasins avec les nitrites, etc., c'est pas forcément mieux. Mais on trouve quand même, il faut le préciser, il y a quand même quelques produits très corrects qui existent.
Peu transformés à base de pois chiches, de lentilles, voilà, on en trouve.
Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des choses intéressantes.
Florent Quélier, historien.
Les mots étant vecteurs d'imaginaire, le fait d'utiliser steak, boulette, jambon végétal montre bien qu'on est dans une culture alimentaire où la viande est matricielle, en fait, où le plaisir, le goût, la force est encore lié à cette idée de la viande. Et ça me fait penser aux produits dits déguisés qui existait au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime, pendant les périodes d'interdiction de la viande, pendant le carême par exemple, où on imitait avec de la chair de poisson des morceaux de viande. Par exemple, en utilisant du saumon et du brochet, on essayait de faire une tranche de lard. Et c'était une façon de jouer avec cet interdit. Ou, par exemple, l'utilisation du lait d'amande. Le lait d'amande est utilisé à l'époque médiévale lorsque le lait, le vrai lait, celui qu'on peut qualifier de lait, est interdit.
Rien de neuf sous le soleil. Donc, et on peut retrouver votre étude sur le site de Sociovision. Rémi Houdguiry, merci beaucoup. On peut podcaster votre chronique Les Français mode d'emploi.
France Inter.
Vous aimez le fromage? Oh, celui-là est parfait, il empêche merveilleusement.
Grand bien vous fasse.
C'est-à-dire, je préférerais un yaourt quand même.
Ali Rébéi.
Et ce matin, on s'intéresse aux produits laitiers frais comme le fromage blanc, le skyr ou les petits suisses. Tiens, Florent Quélier, je rappelle que vous êtes historien de l'alimentation. À partir de quelle période historique consomme-t-on en masse des fromages frais, du yaourt, du fromage blanc dans notre pays? C'est à quelle date?
C'est difficile de répondre à cette question puisque derrière, il y a la définition de consommation de masse. Et dans les périodes historiques, ça relève de l'autoconsommation largement, production à la ferme et également pour les élites, avec des fromages frais qui étaient consommés dans la dernière séquence du repas à la française, qu'on appelle le dessert, où on mélangeait fruits et
également. À quelle période historique?
Alors ça, on est sous l'Ancien Régime. Pour avoir ce qu'on appelle les petits suisses, en tout cas ces fromages frais qui sont enrichis et qui sont donc beaucoup plus gras, là on est sur du 19e. Et le 19e, avec notamment le développement des chemins de fer, et puis après le développement de l'industrie, va permettre d'augmenter la production.
C'est à partir du 19e siècle?
19e siècle, où réellement on entre dans un processus d'industrialisation et donc une augmentation de la production, où ça devient plus facile à être chiffré, à être perceptible. Et puis, vraiment, le boom, ce sera la seconde moitié du 20e siècle, en fait. C'est là où réellement s'impose cette consommation-là, à rapprocher de l'électroménager et du réfrigérateur. C'est lié également. Techniquement, il faut aussi le moyen pour les consommateurs de pouvoir les conserver un peu plus.
Professeur Boris Sancel, on a beaucoup de questions sur la présence de vitamines ou d'oligo-éléments dans les produits laitiers frais. Est-ce que, par exemple, ils sont une bonne source de calcium? Oui. Et rappelez-nous en quelques mots à quoi sert le calcium.
Le deuxième principal intérêt des produits laitiers après les protéines, c'est l'apport de calcium qui est majeur. 99% de notre squelette est fait de calcium. Donc si on n'en apporte pas du tout, on va utiliser celui des os et donc les os font se déminéraliser. s'abîmer et devenir plus fragile. Et il joue aussi un rôle, évidemment, dans la contraction musculaire, dans la coagulation, dans énormément de fonctions.
C'est quoi la bonne portion? Parce qu'on a une question de Nadine de Meurthe-et-Moselle que je prends dans ma voix, qui était au Standard. Qu'entendez-vous par portion en termes de quantité réelle de produits laitiers et de nutriments?
La portion, donc, on a dit deux portions par jour, c'est ce qui est recommandé. Pour le lait, c'est 150 millilitres. Pour un yaourt ou fromage blanc, ça sera 125 grammes. Et pour le fromage, c'est 30 grammes. Ne criez pas dessus. Ne criez pas dessus. 30 grammes.
Donc, c'est pas beaucoup.
Voilà, c'est pas beaucoup. Mais vous savez, moi, j'aime bien dire qu'il faut manger l'esprit léger. Et si on est à 40 ou 50 grammes, c'est pas un drame. C'est vrai qu'avec ces deux portions, vous allez assurer un certain apport en calcium. Et que si on veut des apports optimaux avec deux produits laitiers et puis des amandes par exemple, certains légumes, on va arriver proche des recommandations.
Réponse rapide, Boris Ancel, est-ce que les produits laitiers frais contiennent suffisamment de vitamine D pour couvrir nos besoins?
Non, disons qu'il y a certains produits qui sont enrichis en vitamine D, mais honnêtement, la vitamine D aujourd'hui, à moins d'être un peu au soleil, c'est compliqué d'en avoir suffisamment. L'alimentation, c'est compliqué d'avoir les apports recommandés avec l'alimentation. La vitamine D, c'est l'alimentation et puis un peu de soleil, 15 minutes par jour de mai à octobre. Ça suffit pour assurer les apports l'année, et puis si nécessaire, c'est des suppléments.
Bon, la nutrition, c'est bien joli, mais on va terminer par une note gourmande, Laurent Mariotte. Tiens, qu'est-ce que vous nous proposez comme recette pour terminer à base de produits laitiers frais?
Vous avez raison, Ali, il faut toujours terminer sur une note sucrée. Un fiadone, qui est ce gâteau à base de fromage frais de brooch qu'on fait en Corse. On peut le faire avec de la ricotta si on n'en trouve pas. On peut le faire avec une faisselle qu'on va égoutter pour se rapprocher du labné, comme on en parlait tout à l'heure. C'est très simple. 5 œufs que vous allez battre avec 100 grammes de sucre. Vous faites mousser tout ça. Les zestes d'un beau citron. Alors là, on prend un citron bio ou un citron de Menton, on est en plein dans la saison là. Et puis ensuite, ce brooch ou de la brousse, ou alors cette fesselle égouttée, ou même du cérac. Pour ma revue, je suis allé voir des éleveuses qui font du cérac en Savoie. Pareil, c'est la même consistance. Vous l'émiettez à la fourchette au milieu des œufs et du sucre. Vous mélangez tout ça dans un plat beurré. Allez, 35 minutes au four à 180 degrés et vous avez vraiment quelque chose de frais. Ça pourrait ressembler à un cheesecake si vous voulez, mais il y a cette petite dimension aussi aigrelette apportée par le brooch,
ou la brousse. Saveur aigrelette que vous aimez tant. Une dernière recette, peut-être, pour terminer. Il nous reste une poignée de secondes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une astuce avec le yaourt? Tiens, qu'est-ce qu'on peut... Une sauce au yaourt gourmande à manger avec des pommes de terre, comment vous la feriez, vous? Pour remplacer la mayonnaise, par exemple.
Alors non, mais ce que j'aime bien faire, souvent, c'est de le faire prendre le yaourt avec du citron, par exemple, pour le faire figer un petit peu, et une ciboulette. Et alors là, vous parlez des pommes de terre que vous sortez du four, vous les creusez, vous mettez ça à l'intérieur de vos pommes de terre, ça
avec,
marche très bien.
Un peu d'ail peut-être, non?
Oui, un petit peu d'ail, ou alors une belle crème fraîche entière, c'est pas mal aussi, hein, franchement.
Et d'ailleurs, est-ce que, tiens, c'est pour terminer, c'est pour vous, Boris Ancel, quand on cuisine donc ces produits laitiers frais, quand on les cuit, est-ce que ça perd de ses qualités nutritionnelles?
Non, vous ne perdez pas les protéines, vous ne perdez pas le calcium. Juste un mot, le beurre et la crème fraîche, on ne les classe pas généralement dans les produits laitiers, bien même sûr, si c'est à base de lait. Mais pour revenir sur le fromage blanc, sur le yaourt, sur le skyr qu'on peut utiliser, ou le lait qu'on peut utiliser en cuisine, on ne perd pas le calcium, on ne perd pas les protéines.
Merci beaucoup Elsa Abdoun de Que choisir, pardon, que choisir, j'ai un petit blanc. À la une, parce que je cherchais en fait la une du dernier que je n'ai pas encore entre les mains, la une du dernier Que choisir.
Sortie hier, c'est avec sur à la les une, pesticides dans les fleurs.
Sur les pesticides, sur les pesticides dans les fleurs. Merci Boris Ancel, merci. Manger l'esprit léger, c'est publié chez Michel Lafon. Merci beaucoup Florent Quélier, Histoire de l'alimentation, c'est publié chez Belin. Et merci Laurent Mariotte, votre livre de recettes à ma table est publié chez Solar. Et on n'oublie pas votre magazine, les Petit plat de Laurent Mariotte en kiosque. Et demain, on explore les plaisirs du disco à l'occasion de la journée spéciale sur France Inter.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.